Un excellent sabbat à vous tous. Le titre du message aujourd'hui, l'état du monde et la prophétie. Dans sa parole, Dieu ne nous laisse pas dans le vague, ne nous laisse pas sans savoir les choses qui viennent. Dieu révèle à ses enfants les choses qui viennent et nous aide à nous y préparer. Le monde change beaucoup actuellement, je ne vous apprends rien. Et plus on observe les nouvelles, plus on se rend compte que le rythme s'accélère et que les changements sont importants. Au cours des 5 dernières années, surtout à partir de ce qu'on a appelé, et vous vous en souviendrez, le printemps arabe, la situation géopolitique du Moyen-Orient a beaucoup changé. Et elle continue de changer encore. Ça a été annoncé dans la Bible et ça va s'accentuer. Il y a eu des soulèvements populaires dans beaucoup de pays arabes, renversement de gouvernement, y compris renversement de dictature, très solidement établie. Apparition à ce moment-là de nombreuses factions armées aussi, dans ces pays-là, où les factions armées se sont tournées les unes contre les autres et les conflits ont augmenté. Vous avez vu s'accentuer les actions de groupes terroristes comme Daesh, comme l'État islamique, Al-Qaïda, et beaucoup d'autres. Au cours de la dernière année, surtout, je dirais, au cours des derniers mois qu'on vient de vivre, il y a un vent de grands changements qui s'étend sur toute la planète. On le constate quand on regarde les bulletins de nouvelles. Et en général, les gens qui suivent le moindrement l'actualité, ils le sentent, qu'il y a quelque chose de pas normal, qu'il y a quelque chose de plus que d'habitude. Et ils sont de plus en plus insécures en se demandant ce qui va se produire par la suite. Ils sont de plus en plus inquiets. Mais vous savez une chose, et ça c'est encourageant, ça ne doit pas être le cas de ceux et celles que Dieu appelle actuellement. Parce que Dieu justement nous révèle ces choses-là d'avance, on le savait que ça allait venir. Non pas dans les moindres détails, mais on savait que ça allait venir dans l'ensemble, et là on voit les détails se préciser, on le savait. Mais Dieu nous donne l'encouragement, il dit « Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais ». Si nous ne le délaissons pas, si on continue, même si on n'est pas parfait, à vivre selon ses lois. Ces choses-là ne doivent pas nous inquiéter. Et Dieu nous promet des choses extraordinaires si on est fidèle. Même si la vie est difficile, et même si la vie va devenir encore plus difficile qu'elle l'est actuellement. Il faut s'y préparer mentalement, et il faut s'y préparer de différentes façons qu'on peut utiliser. Les quelques-uns que Dieu appelle en ce moment, et qui se mettent en marche, pour vivre selon ses voies, savent la prophétie. Ils comprennent ces choses-là. Les autres ne comprennent pas. C'est pour ça que Paul parle que pour le reste du monde, c'est comme un mystère. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Plus on approche des grands bouleversements, plus on va comprendre. Et plus on comprend que ces grands bouleversements-là, qui s'accentuent, vont mener prochainement au début de la grande détresse. Tout ça se tient. C'est comme de l'eau qu'on fait bouillir. Au début, ça ne paraît pas du tout. Hein? Et à un moment donné, il commence à avoir des petits frissons d'eau. L'eau ne bouille pas encore. Il commence à avoir des petits frissons d'eau. Et en augmentant, et tout à coup, les bulles commencent à apparaître. Et tout à coup, l'eau commence à bouillir de façon majeure, la grande détresse. Mais il y a les frissons du début. Et on est, je dirais, au début de ces frissons-là qui sont inhabituels, qui sont inconfortables pour ceux qui ne comprennent pas. Mais vous pouvez comprendre et vous pouvez vous mettre à l'abri du Très-Haut. Le rôle de la petite Église de Dieu là-dedans, c'est quoi? Le rôle de la petite Église et de ses ministres, c'est d'avertir le monde de ce qui s'en vient et principalement les descendants des nations israélites. Comme le Christ a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On prépare le retour de Christ parce qu'on annonce la bonne nouvelle à pratiquement toutes les nations. Et en même temps, le rôle de l'Église, puis le rôle des ministres de l'Église, c'est d'aider les membres à rester éveillés sur ce qui se passe et à rester éveillés sur nos responsabilités personnelles. Vous savez, on est responsable de ce qu'on sait. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui révèle ses lois et son plan. On est libre de les mettre en pratique ou pas, mais on est responsable de ce qu'on sait. Et plus on sait, plus on est responsable. Et on doit le mettre en pratique. Sinon, on risque de tout perdre, en plus d'avoir des conséquences désastreuses si on ne suit pas ce que Dieu nous montre de faire. Alors, notre rôle, c'est d'aider les membres, les encourager, répondre à leurs questions, les soutenir et les amener à ne pas être pris par surprise lorsque des événements plus grands encore vont se produire bientôt. On vous en parle depuis un bout de temps. Là, je vous en parle encore avec un petit peu plus de précision aujourd'hui. Allez dans Luc 21. Luc 21, on va lire le verset 34 à 36. Le Christ parle de notre époque. Et il s'adresse bien sûr pas au monde en général, il s'adresse aux appelés, à ceux qui font partie de ce que la Bible appelle son petit troupeau. C'est un tout petit nombre que Dieu appelle actuellement. Mais le Christ nous donne ces directives-là ici. Il dit, verset 34, Luc 21, « Prenez garde à vous-même. » Donc, faites attention. « De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. » Et quand les cœurs s'appesantissent, on est moins conscient de ce qui se passe. Les choses qui avaient de l'importance en ont moins. On se laisse aller sur la vague. On travaille moins à changer. On prend les choses pour acquis. Alors, il dit, « Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. » Par quoi? Par les excès du manger et du boire. Ça, c'est en ce qui concerne les pays bien nantis où il y a encore à manger et à boire. Et le risque pour ceux-là, c'est justement de trop manger et de trop boire. Et de laisser les cœurs s'appesantir et de penser que ça va comme ça continuer tout le temps sans qu'il y ait d'échéance que Dieu a annoncée. Alors, faites attention que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et qu'on soit dans des pays nantis ou pauvres, les soucis de la vie peuvent prendre le dessus. Mais ça doit être Dieu qui est en premier, non pas les soucis de la vie. On lui remet nos soucis entre ses mains. On fait notre possible et ensuite on va prendre conseil auprès de ceux qui peuvent nous conseiller. Comme moi, je vais prendre conseil auprès des ministres qui sont plus anciens que moi et qui sont au-dessus de moi. Et les membres vont prendre conseil auprès de diacres ou de ministres qui peuvent les aider. Faites attention que vos cœurs ne s'appesantissent par les soucis de la vie et que ce jour, le jour du Christ, ne vienne sur vous à l'improviste, la grande détresse que je vous parlais tantôt, là, l'eau qui se met à bouillonner tranquillement. Car il viendra ce jour comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Donc, un effet de surprise. Veuillez donc et priez en tout temps. Vivre dans une attitude de prière. Priez Dieu le matin, puis au cours de la journée, même si on fait d'autres choses, lui dire des merci, lui demander son aide, lui demander son inspiration. C'est ça de prier en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver bientôt et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Autrement dit, d'être encore vivant, d'être encore debout quand le Christ va revenir. Et pour ça, il nous faut quoi? Surveiller les événements, analyser et réfléchir aux tendances que le monde prend, voir les signes. Les signes sont là. Le Christ les a annoncés dans la Bible et il nous dit, nourrissez-vous de ma parole, nourrissez-vous du Christ. Et comprenez les signes qui sont autour pour vous tenir prêts, pour vous tenir sur vos gardes. Et surtout, surtout, pas juste de savoir. Parce que si on fait simplement savoir ces choses-là, mais qu'on ne travaille pas à vraiment se purifier et obéir à Dieu, c'est comme si on ne savait pas. Je vous donne un exemple. On annonce une tornade épouvantable qui va frapper une ville. Les signes sont là, les météorologues l'annoncent. Il y a déjà des villes par cette tornade-là qui ont été détruites et ça s'en va chez vous. Vous savez que ça s'en vient. Est-ce que vous faites quelque chose ou si vous attendez que la tornade vienne et que vous en soyez victime? Vous faites quelque chose. Et dans le cas de l'appel de Dieu, si je sais ce qui s'en vient, j'en suis responsable et je suis responsable de ma vie et de ma personne. Si je n'obéis pas à Dieu qui me dit de faire sa volonté, la tempête va venir, sauf que je n'aurai pas la protection de Dieu. Je ne comprendrai même pas tout le phénomène qui va conduire jusque-là. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas seulement savoir, mais il faut avoir notre cœur à faire les choses de Dieu. Et c'est pour ça que parfois les gens me disent, « Je ne comprends pas tout, M. Brochu, de ce qui s'en vient. » La question que je me pose à ce moment-là et que je leur pose, est-ce que vous êtes en train de vous purifier puis de faire la volonté de Dieu? Si c'est le cas, inquiétez-vous pas. Il va vous donner à mesure de comprendre ce que vous ne comprenez pas encore. C'est ça. Dieu travaille de cette façon-là. Il donne son esprit à qui? À ceux qui s'appliquent à lui obéir. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Vous irez voir dans Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7, il est écrit, « Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. C'est un secret pour l'humanité, mais c'est un secret que Dieu révèle à ceux qui l'appellent. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, à ses enseignants dans l'Église. Voyez-vous? Et c'est pour ça que les ministres de Dieu nous donnent l'information. Ces évangélistes nous donnent l'information. Monsieur Armstrong l'a fait. Monsieur Meredith l'a fait. Apocalypse 1, verset 1. Vous irez voir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et par le bientôt, là, ça veut dire que ça s'adresse à nous qui sommes parvenus à la fin, à la toute fin. Vous regardez au verset 3. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Quel est ce temps qui est proche? Le temps de la grande détresse et le temps du retour de Christ. Dieu a toujours révélé à ses serviteurs les choses qui allaient venir. Et ses serviteurs nous ont enseigné ces choses-là. Moi, je me rappelle, j'ai entendu M. Armstrong à plusieurs reprises. On a eu l'occasion de le rencontrer même il y a plusieurs années. Et vous savez une chose? À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était dans un état de destruction totale. Et M. Armstrong a été le seul à ce moment-là à dire « L'Allemagne va se relever. L'Allemagne qui venait d'être divisée par le milieu, possédée en partie par les Russes à ce moment-là, M. Armstrong a dit « L'Allemagne va se réunifier et l'Allemagne va devenir le leader de l'Europe unie pour la dernière résurrection de l'Empire romain juste avant le retour du Christ. » Est-ce que ce n'est pas en train de se produire? L'Allemagne actuellement est le moteur de l'Europe. Et il va apparaître bientôt quelqu'un qui va prendre la direction, non seulement de l'Allemagne, mais de l'Europe unie, telle que ça a été annoncé. Pourquoi M. Armstrong a pu annoncer ça alors que l'Allemagne était en ruine? Même les gens se sont moqués de lui. Parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et ce que je vous dis là, ça peut être prouvé, ça a été écrit dans différents journaux. Même chose pour M. Meredith. Vous savez, M. Meredith, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, annonce que l'Angleterre ne fera pas partie de l'Empire romain ressuscité quand l'Europe, du temps de la fin, va s'unir une dernière fois en se donnant une force militaire incomparable. M. Meredith dit depuis des années et des années, l'Angleterre ne sera pas là. Et on voit que l'Angleterre est en train de sortir de l'Europe unie. Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. C'est vraiment formidable. Alors, en ces temps de la fin, depuis plusieurs dizaines d'années, je vous apprends rien, les serviteurs de Dieu ont annoncé l'état du monde. Et c'est ce que je vous annonce aujourd'hui en donnant quelques autres précisions. Ont annoncé que ça allait empirer, que ça allait se détériorer, beaucoup. Et là, c'est commencé à se détériorer plus et plus rapidement. Et qu'en même temps, les valeurs morales allaient être rejetées de plus en plus. Ce qui est le cas, ce qu'on voit. Et que la méchanceté sur la planète, la corruption, la violence, toutes ces formes, allaient augmenter. Et ça va augmenter à un point tel que si Dieu n'intervenait pas, l'humanité s'auto-détruirait totalement. Et elle en a la capacité actuellement. Et quand on voit le nouveau président des États-Unis qui dit « on va aller du côté nucléaire comme avant » et qu'on voit la Russie emboîter le pas, et alors qu'on a sur la planète assez de bombes de toutes sortes pour faire sauter plusieurs fois la planète elle-même au complet, tous les éléments sont réunis maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre d'années, pour que la fin arrive et que si Dieu n'intervenait pas, que l'humanité se détruirait totalement. D'ailleurs, écoutez, le Christ a comparé l'époque où on vit à deux époques particulières. Ça nous aide à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Il a comparé l'époque où on vit à l'époque de Noé, juste avant le déluge. Et il a comparé l'époque où on vit aussi à l'époque de Sodome et Gomorre, juste avant la destruction de ces deux villes-là. Vous pourrez regarder le récit plus en détail, puis vous ferez les comparaisons avec ce que vous voyez se passer autour de vous et dans les bulletins de nouvelles. Vous irez voir, par exemple, pas besoin d'y aller de suite, mais je vais vous le citer, Genèse 6 et le verset 5, à l'époque de Noé. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, comme elle est grande maintenant, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » C'est pas peu dire, là. Chaque jour, toutes les pensées de leur cœur uniquement vers le mal. Et regardez les bulletins de nouvelles. Même les chefs des entreprises, les chefs de gouvernement, Ils font presque la file pour attendre leur procès, ceux qui se font prendre, pour être envoyés en prison ou ainsi de suite. C'est ce qui se passe dans nos sociétés. Les gens veulent prendre et non pas donner. Qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Il a dit à Noé de bâtir une arche qu'il allait le protéger, lui et sa famille. Comme Dieu promet à ceux qui l'appellent maintenant une protection au temps de la fin, si nous nous mettons en marche pour faire sa volonté, pour soutenir son œuvre et pour apporter notre contribution d'encouragement aux autres. Genèse 7, verset 1, juste après. « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, une fois que ça a été fait, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi. » Ça veut dire quoi? C'est qu'il a vu que Noé pratiquait la justice que Dieu lui avait enseignée. Les 10 commandements, ces choses-là, que nous apprenons aussi, que le Christ est venu enseigner et même magnifier. Il dit, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que tu marches dans ma justice, parce que je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération, en voulant dire cette génération qui est méchante autour. Sois différent d'elle. Et Noé a été complètement différent. Il a sûrement fait rire de lui pendant longtemps lorsqu'il a bâti cet immense navire dans un lieu où il n'y avait même pas d'eau, en annonçant aux gens qu'il allait avoir un déluge. Ça n'avait pas de sens. C'est comme quand M. Armstrong annonçait que l'Allemagne, qui était détruite complètement, allait devenir la force dominante de l'Europe et diriger le monde à un moment donné encore une fois. Même principe, même chose. Un peu plus tard, là on voit la question de l'Arche de Noé, un peu plus tard, même phénomène. Méchanceté extrême à Sodome et Gomorre. Sodome, c'est là que Lot habitait. Lot était neveu d'Abraham. Vous irez voir Genèse 13, verset 13. Quelle était l'atmosphère autour? Quelle était la moralité des gens? Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorre. Il a envoyé deux anges sous forme humaine pour aller procéder à cette destruction-là. Les deux anges sous forme humaine sont allés chez Lot, que Dieu voulait protéger, sont allés pour coucher dans sa maison. Allez dans Genèse chapitre 19, s'il vous plaît. Genèse chapitre 19. Lisons les versets 4 et 5. En parlant des deux anges sous forme humaine, ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, afin que nous les connaissions. » J'arrête. Il venait de dire que c'était une civilisation qui était méchante autour. Cette situation-là se produit. Deux hommes arrivent qui sont en fait des anges. Et toute la ville se réunit pour les connaître. Mais quand vous regardez ce que ça veut dire « connaître », dans le texte original, c'est les connaître charnellement, les connaître physiquement. Donc, ce que ces gens-là avaient planifié, c'était des viols homosexuels sur ces deux hommes-là qui étaient entrés chez Lot. Lot est intervenu pour protéger ses invités. Les gens autour ont voulu enfoncer la porte, puis ont voulu s'en prendre à Lot. Les anges, avec les pouvoirs qu'ils ont, et c'est le travail des anges protecteurs que Dieu donne aussi. Les anges ont protégé Lot et ont frappé tous les gens autour de la maison d'aveuglement. Ils sont tous devenus, en un instant, aveugles. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. Et le lendemain, Dieu a protégé Lot, sa femme et ses filles, parce que les anges les ont fait sortir de Sodome avant que la destruction ait lieu. Il y a un parallèle avec notre époque. L'augmentation de la méchanceté qui arrive à son paroxysme. On voit des choses maintenant qu'on n'a jamais vues auparavant, comme méchanceté, qu'on n'aurait même jamais imaginé. On est rendu là. Allez dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On va lire versets 26 à 30. Là, ici, le Christ fait un parallèle entre ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que je viens de vous donner, et ce qui arrive à notre époque, juste avant son retour. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Christ va revenir sur la terre. » Il dit, le même phénomène va se produire, là, sachez-le. Et qu'est-ce qui se passait? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, la vie suivait son cours, dans leur méchanceté en plus, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que vienne le jour où Dieu avait tracé la ligne, c'était la limite. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr tous. Continuons. Verset 28. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Les hommes, même chose, mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, quand les anges l'ont amené, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. La ligne de Dieu était tracée. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à la déclaration du Christ ici. Il nous donne des exemples, il dit, regardez ce qui s'est passé, regardez autour de vous qui êtes rendu au temps de la fin, tirez-en les conclusions qu'il faut. Marchez dans les voies de Dieu et Dieu va prendre soin de vous. Maintenant, pour qu'on voit un peu l'état des choses dans la société où nous sommes rendus, j'aimerais vous lire une lettre de M. Gerald Weston, qui a été le directeur au Canada de l'Église ici pendant 13 ans, qui est maintenant au quartier général et qui a été désigné par M. Meredith pour prendre la relève à la tête de l'Église si M. Meredith devait décéder ou n'être plus capable d'exercer ses fonctions. Et M. Weston est un homme qui a été préparé de très longue date par Dieu, avec toute l'expérience qu'il a dans le ministère. C'est un homme posé, un homme calme, un homme réfléchi, un homme qui aime à servir. Et voici ce qu'il décrit dans sa lettre du 13 décembre 2016. Ça décrit, si vous voulez, la décadence des mœurs autour. Il parle beaucoup du Canada ici, mais écoutez, c'est la même chose ailleurs dans le monde. Il dit, un des pays précurseurs de l'abandon des valeurs bibliques est le Canada. Le gouvernement de la province de l'Alberta a lancé en début d'année une campagne dite de progrès social, entre guillemets, afin d'inculquer l'agenda LGBTQ aux enfants. L'agenda LGBTQ, c'est l'agenda des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et queer. OK? Alors, ça vient du gouvernement, là. Et on ouvre la porte pour que ça aille dans les écoles. Ce que je veux qu'on voit à travers ça, c'est où en est rendue la société actuelle. Le 1er novembre 2016, CBC News rapportait comment l'Association des enseignants de l'Alberta a pris le relais grâce à un programme qui s'appelle PRISM. C'est un programme qui montre aux enseignants comment soumettre les enfants dans les écoles à la propagande de leur expérimentation sociale pour initier les enfants à ces choses-là, autrement dit. En d'autres mots, je vais plus loin. Une nouvelle trousse d'outils pour assister les enseignants de l'Alberta, par contre. Et dans cette trousse-là, on propose que des spectacles de travestis aient lieu dans les écoles. Voyez-vous pourquoi? Voyez-vous où ça mène, où c'est rendu? Des spectacles de travestis dans les écoles pour les jeunes enfants, pour les habituer à ça, les habituer à ce qu'ils se fassent à l'idée que selon eux, c'est une façon normale de vivre, alors que c'est contraire aux lois de Dieu et que c'est complètement anormal. Mais c'est pour vous montrer que c'est rendu loin. Alors, cette trousse-là, proposée aux enseignants, propose que des spectacles de travestis aient lieu dans les écoles et que les élèves, en plus, soient appelés camarades au lieu de garçons et filles. On ne veut plus qu'on fasse de distinction entre garçons et filles. Simplement les appeler camarades. Et ça va plus loin, vous allez voir tantôt. C'est vraiment époustouflant. Je continue. Il est proposé que les élèves puissent inviter des travestis locaux à venir à l'école, enseigner des techniques de maquillage et de coiffure. Voyez-vous? On voit ça va loin, là. On est rendu très loin. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on voit aujourd'hui des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a peu d'années. On est rendu là, ça va très vite et ça va aller encore plus vite. Aucun sujet n'est laissé de côté. Les habitudes et le langage quotidien doivent aussi être transformés selon cet enseignement qui doit être donné là-bas dans les écoles. Les pronoms tels que il, elle, lui, elle, lui-même et elle-même devraient être remplacés. Mais oui, si vous avez pu garçon et fille, il faut vous trouver un moyen d'éliminer ça aussi, même dans le langage. Ça va loin, là. Ça va très, très loin. Et ça, ce que je vous donne, c'est à partir d'un document officiel. On peut le retrouver sur Internet. Alors, ces mots-là, là, il, elle, lui, lui-même, elle-même, devraient être remplacés par yel, yel, I-E-L ou Y-E-L, yol ou yol, I-O-L ou Y-O-L. Je comprends que ça vous fait sourire, ça n'a pas de sens. Et ceux qui présentent ça comme une logique extrême, comme si ça avait du bon sens, alors que c'est complètement farfelu, complètement insensé. Yol et Ol-même, au lieu de lui-même, là, O-L-même. Alors, vous imaginez la conversation, là? C'est incroyable. Et on dit que c'est des gens sérieux. Mais écoutez, je vous parle de dirigeants de la société, là. Je parle pas du dernier venu qui a eu une idée bizarre. C'est en haut lieu de la société qu'on dit de faire ces choses-là. Et c'est pas la seule place au Canada. En Ontario, vous avez un autre phénomène qui dit aussi, là où on est rendu dans les mœurs, l'Ontario est une autre province canadienne, M. Weston le souligne, en pleine décadence. Je vous cite ici le Ontario Newsroom du 29 novembre 2016. Jusqu'à 4 personnes pourront être reconnues en tant que parents d'un enfant. OK? 4 personnes pourront être reconnues en tant que parents d'un enfant en l'absence d'une décision de justice, à condition que chacune des parties approuve un accord par écrit avant la conception de l'enfant. Donc, voyez-vous, il doit y avoir une entente là, entre 4 personnes avant la conception d'un enfant pour que les 4 personnes soient déclarées 4 parents de ce même enfant-là. On parle d'être insensé, on parle de fou, là. On parle de folie. On peut parler ce mot-là, je pense, on peut l'utiliser. C'est ça. Pour que tous soient parents, la mère biologique devra automatiquement faire partie de l'accord. Ah bien, regarde donc. Ils n'ont même pas oublié la mère biologique. Ils reconnaissent au moins qu'il y a une maman porteuse du bébé qu'il faut qu'il soit dans le décor quelque part. Elle pourra aussi signer le document comme étant officiellement parent. C'est fou, c'est fou. Et dans le même document publié par l'Ontario's Newsroom, ça dit aussi qu'on devra utiliser le plus possible le genre neutre lorsqu'on parle de garçon ou fille et enlever ce vocabulaire-là. Même chose qu'en Alberta que je vous ai mentionné tantôt. Alors, si vous remarquez, ça, c'est des attaques directes contre la famille. Et celui qui a inventé ou qui a créé la famille, c'est Dieu, qui, lui, est en train de se fabriquer une famille avec ceux qu'il appelle et qu'il va appeler plus tard. Comprenez-vous que le Dieu de ce siècle, Satan, s'attaque à la famille, s'il peut détruire la famille, détruire le noyau familial, la conception de ça, détruire le fait que c'est homme et femme, masculin, féminin, c'est à ça qu'il s'attaque. Et on le voit clairement dans des documents aussi insensés que ceux que je viens de vous mentionner. D'ailleurs, il y a un des psychiatres les plus respectés aux États-Unis, le docteur Paul McHugh, qui a dit ceci au Wall Street Journal. Les décideurs politiques et les médias ne rendent service ni au public, ni aux personnes transgenres en considérant leur différence comme un droit plutôt que de la considérer comme un trouble mental. Comme un trouble mental qui mérite de la compréhension, oui, et de la prévention et un traitement. Alors, je vous parle d'un psychiatre reconnu ici qui décrit vraiment l'état de la situation de ce que c'est cette approche sexuelle biaisée. Ce profond sentiment ressenti par les transgenres constitue un trouble mental pour deux raisons, explique le psychiatre. La première est que l'idée de distorsion sexuelle est tout simplement erronée. C'est une invention de l'esprit, car elle ne correspond pas à la réalité physique. On est garçon ou fille. C'est simple, simple. Ça ne prend pas un cours universitaire pour identifier un garçon et une fille à la naissance. La seconde est que cela peut conduire à des situations psychologiques effrayantes. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça peut être. Ça a apparu dans le Wall Street Journal le 12 juin 2014. Ce que ce psychiatre-là a déclaré. Maintenant, quelles peuvent être ces situations psychologiques effrayantes? Le docteur McHugh rappelle que, selon une importante étude suédoise, exhaustive, donc élaborée, les individus qui ont subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle, dans le but de satisfaire leur triste désillusion, enregistrent 10 ans plus tard, un taux de suicide 20 fois supérieur à celui de la population moderne. Pourquoi? Parce que ça n'est pas normal. Parce que ça n'est pas normal, absolument pas. Alors, ai-je fait preuve de haine ou d'amour que de dire la vérité à ces personnes en essayant de les encourager et de les encourager à chercher de l'aide pour vivre heureux et ne pas être aux prises avec les conséquences de ça? Pourtant, tous ces comportements, M. Weston indique, contre nature sont encouragés chez nos enfants et nos petits-enfants. Dieu, à travers les écrits de l'apôtre Paul, en a parlé en décrivant ce qui arrive aujourd'hui. Paul a dit, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, en parlant de la population actuelle, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Et ils ont eu comme pas de limite aux perversions de toutes sortes dans lesquelles ils se sont abandonnés. C'est fort. Mais je vous dis tout ça pour que vous réalisiez que ce qui est arrivé à Sodome, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est que la patience de Dieu est là de limite. Et à un moment donné, les choses vont venir sur le monde comme un filet, comme on a vu tantôt, comme le Christ a annoncé. Il y a un désastre qui s'annonce à l'horizon. La tempête, elle est en train de se préparer. Et c'est pour ça que nous, on doit rester constamment tournés vers Dieu pour faire sa volonté. Et c'est pour ça que Paul nous dit dans Hébreux 10, verset 24-25, Hébreux 10, verset 24-25, « Veillons les uns sur les autres. » Et c'est pour ça qu'à l'Assemblée de Sabbat, pour s'encourager. Et c'est pour ça qu'on se téléphone, qu'on s'envoie des petits mots. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et regardez ce qu'il ajoute. « Et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Quel jour? Le jour du retour de Christ. Il dit, d'autant plus que vous voyez les événements s'aggraver et le retour du Christ approcher, c'est le temps de rester proches les uns les autres, de rester proches de l'Église, de faire la volonté de Dieu. Notre monde actuellement, comme on voit, comme vous le réalisez aussi, se dégrade très rapidement. De telle sorte que Dieu compare les dirigeants de nos sociétés actuelles aux dirigeants des anciens de la ville de Sodome et de Gomorre, et à leurs habitants. Vous irez voir Ésaïe 1, verset 10. Dieu décrit nos chefs, nos leaders dans nos sociétés actuellement, et il les compare à Sodome et Gomorre. Il dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome, les dirigeants du pays, qui devaient savoir mieux et faire mieux. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. » Alors, voyez-vous, il compare nos peuples et nos dirigeants à Sodome et Gomorre. Et on voit les mêmes comportements se multiplier partout autour de nous. Inimaginable il y a quelques années. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui doivent se produire avant que la grande détresse ne soit définitivement déclenchée. Mais ce qu'on voit, c'est les tendances qui s'accentuent. Les premiers petits frémissements qui annoncent que l'eau va augmenter de température. Parce que la violence augmente partout, dans nos villes aussi. Il y a des villes aux États-Unis puis au Canada où c'est devenu très insécure. Il y a des villes où il y a des meurtres par jour, par jour. Il y a des villes actuellement au Canada où il y a des morts par injection de drogue de façon épouvantable. Les services sociaux n'arrivent plus à en prendre soin et les hôpitaux sont débordés du côté de la Colombie-Britannique, entre autres, de ce temps-là, avec l'apparition de nouvelles drogues. C'est épouvantable. Ça fait partie des temps où nous sommes. Et l'immoralité, la violence augmente. Les nouvelles nous inondent de cas de corruption, de fraude, de mensonges dans le monde des affaires, dans le monde des gouvernements. Sur Internet, je regardais les chiffres. Sur Internet, selon une étude, le plus grand nombre de recherches, vous savez quel sujet? La pornographie. C'est pas les finances, c'est pas le jardinage, c'est pas la cuisine. Le plus grand nombre de recherches inscrites sur Internet, c'est la pornographie. Alors, on peut voir comment l'esprit des gens se concentre sur le mal. Tu sais, on a vu tantôt là, que leur pensée se consacrait chaque jour sur ce qui est mal. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est plus facile aujourd'hui encore parce que les gens peuvent faire ça sous l'anonymat, dans leur sous-sol, n'importe où, et aller chaque jour là-dessus et se détériorer par l'intérieur et s'éloigner de Dieu et devenir de plus en plus mauvais. Et c'est pour ça qu'on voit que, écoutez, le fait de coucher avant de se marier avec d'autres, en grand nombre, ça n'a plus d'importance. Ce que la Bible appelle la fornication. Aujourd'hui, c'est considéré comme normal. Et si quelqu'un ne le fait pas, c'est lui ou elle qui n'est pas normal. Alors que la normalité, c'est d'attendre d'être marié pour donner ce cadeau-là à notre conjoint ou notre conjointe. Et que là, on bâtit une famille solide. Non, aujourd'hui, c'est considéré, même, j'ai resté surpris, non pas des gens d'église, mais je parlais avec un couple à un moment donné, et leur enfant ne couchait pas encore avec la personne qu'il fréquentait, et il trouvait ça bizarre, comme si l'enfant n'était pas normal. Mais non, c'était les parents qui n'étaient pas normal, parce qu'ils ont justement, ils ont perdu l'idée de moralité, ils ont perdu leur standard. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et les conséquences de ça, de coucher avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, avant le mariage, bien, vous avez les maladies transmises sexuellement, les grossesses non désirées, les avortements qu'on fait parfois par la suite, les petites mamans qui se retrouvent seules à élever un ou des enfants dans des conditions de pauvreté horribles parfois. C'est ce qui se passe. Ça, c'est toutes des conséquences de quoi? D'une transgression de la loi de Dieu qui nous demande de nous garder jusqu'à notre mariage et d'élever des enfants, de les mener à terme en tant que mari et femme dans une famille stable. C'est ça, c'est des conséquences. Et aujourd'hui, écoutez, l'adultère, c'est très répandu. Si vous avez vu comme moi, je vous ai annoncé d'ailleurs dernièrement un article, je vous ai lu un article qui mentionne qu'en Italie, il y a un projet de loi qui a été soumis, un amendement à un projet de loi qui a été soumis à l'effet de déclarer comme n'étant plus un crime le fait de commettre l'adultère. Que pour se marier, on n'a plus besoin de promettre la fidélité à notre conjoint. Mais c'est quoi le mariage à ce moment-là? Mais c'est pour vous dire que l'état des mœurs actuelles est rendu très, très loin. Alors, de nos jours, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, la bisexualité, le transgenre sont de plus en plus réels, pratiqués, mais pas juste pratiqués. Ils sont de plus en plus imposés à la société en général, comme si c'était normal et comme si c'était le cas de la majorité. Mais ce n'est pas normal. Mais on l'amène comme si c'était la chose normale, et ceux qui pensent autrement, ce sont eux qui ne comprennent pas, qui sont arriérés et qui sont vieux jeux. C'est ça. Et c'est pour ça que ça nous demande d'être solides dans les lois de Dieu pour vivre selon ce que Dieu nous montre. Question. Quand on regarde tout ça, se pourrait-il que ces comportements-là, dont je viens de vous parler, que ces transgressions-là, parce que c'est des transgressions des lois de Dieu, révèlent un niveau de méchanceté qui s'approche du niveau de méchanceté de Sodome, de Gomorre et du temps de Noé. Quand Dieu dit, leur pensée était chaque jour vers le mal uniquement. Vous savez, il faut être conscient des signes que le Christ nous a donnés. Il faut être conscient de ce que Dieu nous a dit dans sa parole qui allait arriver juste avant le retour de Christ. Et faire attention aussi de ne pas s'habituer à ces choses-là. Parce qu'à force d'entendre ces nouvelles-là, on peut comme prendre pour acquis que c'est un peu normal, que c'est pas si urgent que ça, que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça va en s'augmentant rapidement. Il faut faire attention, justement, de ne pas s'habituer à cette chose-là. On ne doit pas s'habituer, autrement dit, à l'immoralité et ce qui est contraire aux lois de Dieu. Les humains se sont détournés de Dieu. Ils ont rejeté ces lois et ils en souffrent beaucoup. Violence, guerre, attentats presque chaque jour, terrorisme, insécurité, pauvreté, inégalité sociale de plus en plus marquée, là. Écoutez, je regardais un article de la presse du 16 janvier 2017. Ici au Canada, par exemple, les deux Canadiens les plus riches, ce sont des milliardaires. Ils possèdent autant d'argent que le tiers le plus pauvre de toute la population du pays. Alors, vous avez deux hommes ici au pays qui possèdent une fortune personnelle plus grande qu'un tiers des 30-quelques millions de Canadiens, donc 11 ou 12 millions de Canadiens, à eux seuls, ces deux hommes-là. Et c'est la même chose sur le plan international. Vous avez vu probablement le rapport d'Oxfam à partir de du forum économique qui a eu lieu à Davos dernièrement. Oxfam a publié des chiffres qui sont très éloquents de ce côté-là aussi, des disparités qui existent. Les 8 milliardaires les plus riches de la planète possèdent à eux-mêmes autant que la moitié la plus pauvre de toute la planète. Vous avez 8 hommes qui possèdent en argent autant que la moitié la plus pauvre de toute la planète au complet. C'est fort. Et quand on dit que sur la planète, en plus, il y a une personne sur 10 qui vit avec moins de 2 $ par jour, là, on parle de disparité. Et quand on voit ce rapport-là, d'Oxfam le mentionne, ça dévoile comment les grandes entreprises, les individus, les plus riches, augmentent les inégalités en exploitant un système économique défaillant, en éludant l'impôt, en se sauvant de l'impôt, en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires. On appelle ça paradis fiscaux. On appelle ça abri de l'impôt, abri de l'impôt, austérité. Alors, on coupe les salaires des gens, on coupe les emplois pour faire davantage à quelques personnes qui vont, à un moment donné, comme posséder l'ensemble de la planète. C'est incroyable de voir ces choses-là. Pendant ce temps-là, c'est incroyable, vous avez des souffrances de plus en plus grandes sur la planète. Je regardais dernièrement simplement le Venezuela, où au cours de la dernière année, au cours des derniers 12 mois, il y a eu une augmentation de l'inflation de 1600%. Les gens sont appauvris, c'est pas possible. Pour la distribution de nourriture, on compte sur l'armée. Maintenant, le président a demandé à l'armée de distribuer la nourriture qui vient pratiquement totalement de l'extérieur du pays. Ils ne peuvent plus produire localement. Et ce qui arrive, c'est que comme c'est plus payant de vendre au marché noir la nourriture que la drogue, j'imagine le prix de la nourriture, les soldats en profitent pour vendre la nourriture à ceux qui ont l'argent. Alors, ceux qui n'ont pas, vous imaginez ce qui arrive. Ce qui fait qu'il y a des familles là-bas, comme l'article que j'ai lu, il y a des familles là-bas qui confient leurs enfants à des amis, à des proches qui peuvent en prendre soin, ou qui simplement les abandonnent. C'est l'état dans lequel on vit. Alors qu'il y a autant de disparités parce qu'il y a transgression des lois de Dieu. Pendant ce temps-là, l'industrie de l'armement tourne à plein régime. On fabrique des armes comme jamais auparavant. Et si vous remarquez, dans les pays en guerre, les gens manquent de nourriture, mais les combattants ne manquent jamais d'armes. Avez-vous déjà arrêté à penser à ça? Il y a quelqu'un qui fournit les armes, il y a quelqu'un qui en profite, il y a quelqu'un qui donne de la nourriture à ceux qui détiennent les fusils. Mais les autres souffrent. Ça, c'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de Satan. Ça achève, heureusement. Mais quand on voit ça, on voit à quel point on est rendu et que Dieu est sans doute tout près de tracer la ligne pour dire « ça suffit, c'est assez ». Nos pays bien nantis parlent de paix, font des belles conférences sur la paix et des superbes conclusions par écrit ensuite, qui sont parfois écrites avant, et où on s'entend pour se réunir une prochaine fois pour parler encore de paix et d'égalité. Parle de paix, tiennent de nombreuses conférences, mais ils vendent des armes et ils fabriquent des armes. Ça, c'est ce que les hommes font. C'est pas un monde de justice, c'est pas le monde de Dieu. Dieu le voit et Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. J'ai pas le temps d'y aller, mais vous irez voir dans Osée 4, versets 1 à 3. Osée 4, versets 1 à 3, Dieu décrit exactement la société dans laquelle on vit et Dieu va intervenir. Il n'endurera pas ça longtemps. Vous savez, les actes de terroristes qu'on voit, que Dieu permet que nos nations, nos villes soient touchées de plus en plus, et ça va être le cas encore davantage, c'est que ça découle du fait que l'humanité, et nos pays en particulier, se sont détournés de Dieu. 2016, je vous donne simplement quelques chiffres. À Nice, vous avez ce monsieur qui a frappé dans la foule avec un camion, 86 morts, 400 blessés. Orlando, 49 tués, 53 blessés. Et vous avez eu ensuite des actes de terrorisme en Belgique, au Canada, en Inde, aux Philippines. En Syrie, ça dure depuis plus de 5 ans. Quand vous regardez l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, le rapport dit ceci. 11 millions de Syriens ont fui leur maison depuis 2011. Imaginez, là. 11 millions de Syriens ont fui leur maison depuis 2011. 4,8 millions ont fui vers la Turquie et d'autres nations du Moyen-Orient. Cette nuit encore, j'ai pris qu'il y avait 1000 migrants qui ont été rescapés en mer, qui essayaient de traverser du côté de l'Italie. C'est chaque jour, ça continue. Il y a eu 6 600 000 personnes qui ont été déplacées à l'intérieur du pays aussi. Parce que d'une ville à l'autre, quand il y a les violences, les gens essaient de survivre en partant. Mais ils vivent avec quoi? Quand on regarde la terre autour, ils mangent quoi? Ils font quoi? Imaginez-vous l'angoisse, l'anxiété. Dans le monde entier, je vous donne un chiffre. Dans le monde entier, en 2016, vous savez comment il y a eu de personnes qui ont dû fuir leur maison, là, tout laisser derrière? 65 millions. 65 millions de personnes sur la Terre en 2016 qui ont dû tout abandonner, fuir leur maison. On vit dans un monde turbulent et les choses vont accélérer. Tout est en changement, de plus en plus grand. Toute la structure mondiale, j'insiste là-dessus, toute la structure mondiale va bientôt changer. J'en ai parlé dans la sermonnette avec ce qui s'en vient en Europe. Vous avez eu le Brexit qui a frappé, qui est arrivé de façon inattendue. Les gens ne pensaient pas que ça allait passer lors du référendum. Ça a passé. Et ça, ça ébranle l'Europe unie. D'élections, on peut parler. 2017, des élections importantes. En Allemagne, ça va venir à l'automne 2017. En Italie, en France, aux Pays-Bas, je pense aussi. Vous savez, j'ai lu un article sur CNN le 2 janvier 2017. Et le sous-titre en disait beaucoup. Ça disait « En quelques mois seulement, l'impensable s'est produit encore, encore et encore. » En quelques mois seulement, l'impensable s'est produit encore, encore et encore. Quand on voit ces choses-là arriver, là, ça fait partie de la soudaineté du filet que je vous disais tantôt qui vient sur le monde. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Et tout à coup, ça s'est mis à débouler. Là. Avec l'élection de M. Trump, c'est la même chose aux États-Unis. Le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Des éléments majeurs sur l'échiquier du monde qui vont bouleverser toute la situation. Le monde devient agité. Le monde devient instable. Aux États-Unis, vous avez maintenant un nouveau président élu par surprise. Il n'était même pas accepté dans son propre parti au point de départ, si vous avez suivi ça un peu. Il n'était même pas accepté dans son propre parti. Finalement, il a été élu pour son parti et ensuite, il a été élu à la présidence. Homme impétueux, imprévisible, pas trop soucieux de la vérité, ni des autres. C'est plutôt le genre « bulldozer ». Ou imposer son autorité, ou ce que je pense, c'est ça ce qui va arriver, et qui a tendance, à ce qu'on voit, à vouloir diriger les États-Unis comme on dirige une entreprise. Mais les États-Unis, c'est pas une entreprise comme telle. C'est un pays avec des relations diplomatiques, avec des liens établis, avec des conséquences aux décisions. Et là, M. Trump veut faire un mur, dans le fond, autour des États-Unis comme telle, et protéger les emplois et toutes ces choses-là, mais ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Déjà, il y a des réactions énormes et il s'est mis à dos la Chine, l'Allemagne, l'Europe actuellement. Et ça continue. Des déclarations intempestives de plus en plus. Il remet en question l'OTAN, par exemple, l'existence de l'OTAN. Et ça, ça met les Européens dans une situation intenable, là, parce qu'ils ont peur de la Russie. Et ils voient que M. Trump fait ami avec la Russie, ça les inquiète. Ils ont vécu des drames par la Russie dans le passé et ils ne veulent pas que ça se répète. M. Trump, en faisant ça, provoque indirectement ou même directement la création réelle d'une armée européenne qui va être l'armée de la bête, finalement. Alors, voyez-vous, ça va exactement dans le même sens. D'ailleurs, il y a un dirigeant allemand qui a fait une déclaration suite à ce que M. Trump a fait depuis son arrivée au pouvoir. C'est M. Wolfgang Hischkinger, qui est le président de la conférence de la sécurité à Munich, qui a déclaré ceci. « J'espère qu'aucun responsable politique allemand ne répétera cette phrase. Il ne peut pas y avoir de solution militaire. » Autrement dit, si on met la phrase dans le bon ordre, c'est qu'il dit « Je ne veux pas entendre aucun dirigeant allemand dire qu'on ne peut pas utiliser une solution militaire. » C'est que dans son esprit, avec ce qui se passe, il faut que l'Allemagne s'établisse solidement une armée et qu'elle puisse être forte par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, suite aux déclarations de M. Trump et à la réaction de la Russie. En plus de ça, vous voyez M. Trump qui veut transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui crée une furie chez les Palestiniens. Alors, c'est en train de mettre le feu, là aussi, d'une autre façon. Il vient de rejeter totalement, en les insultant, les Mexicains. Alors, et c'est la même attitude un peu avec d'autres. Alors, ça, c'est la réalité qu'on voit. En plus de ça, il pourrait y avoir une crise à Jérusalem aussi, avec tout ce qui se passe autour de la ville. Et ces événements-là, peut-être en 2017, vont peut-être ouvrir la porte ou préparer à la reprise des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Tout ça va ensemble. On ne le réalise pas nécessairement au point de départ, mais tout ça va exactement dans la même direction. Et quand vous regardez ça, vous voyez que le monde, dans son ensemble, devient instable, devient chaotique et devient de plus en plus imprévisible. Mais vous savez la fin de l'histoire. Parce que le Christ a dit comment ça allait finir. Il va revenir, il va établir son gouvernement, il va mettre fin aux misères humaines. Nous, on le sait, et on peut avoir ses bénédictions. Maintenant, d'ici là, tout peut arriver, et très rapidement, parce que la Bible parle à plusieurs endroits de soudaineté des événements. Et on est conscient de plus en plus qu'on vit à une époque unique, sans pareil, où les conditions se précisent avant que les signes prophétisés par le Christ dans Matthieu 24 ne se concrétisent entièrement. On est à l'époque des frémissements de l'eau. Il faut prendre notre appel au sérieux. Il faut rester proche de Dieu, prier chaque jour, étudier sa parole chaque jour, jeûner régulièrement, travailler à nous purifier. Allez dans Luc 21, s'il vous plaît. Luc, chapitre 21. On va lire à partir du verset 28 à 31. Regardez ce qu'il dit ici. « Quand ces choses commenceront à arriver, et on les voit commencer à arriver, » c'est un encouragement qu'il nous donne à ceux qui lui appartiennent, à son petit troupeau. « Redressez-vous et levez vos têtes. » Ne vous découragez pas, autrement dit. Vous saviez que ça devait venir? Restez proche de moi. « Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. » De même, verset 31, « Quand vous verrez ces choses arriver, et on les voit arriver de plus en plus, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Et c'est là qu'est notre espoir. Vous savez, pendant qu'une partie du monde souffre de plus en plus, pendant qu'une partie du monde souffre de façon effrayante, l'autre partie du monde mange, boit, se divertit, s'engourdit, comme avant l'épisode du déluge, comme Dieu disait, et comme avant la destruction de Sodome et Gomorre, quand les hommes mangeaient, buvaient, comme si tout allait continuer indéfiniment. Même chose. Avant le déluge, avant Sodome, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens s'amusaient. Je vous donne une petite comparaison. Juste avant le naufrage du Titanic, vous connaissez l'histoire du Titanic, juste avant le naufrage du Titanic, ceux qui étaient sur les ponts supérieurs mangeaient, buvaient, s'amusaient, dansaient, jusqu'au jour où la catastrophe est arrivée et où le navire a sombré. Mais tout semblait aller comme si ça allait continuer de tout temps. Gardons les yeux sur le but, sur la délivrance qui s'en vient, sur les choses qu'on a à faire. Demandons à Dieu de nous donner la foi, le courage de Christ, pour être capable de changer ce qu'on a à changer, d'être patient par rapport à ça. Dieu est patient par rapport à nous, mais nous, on doit être patient par rapport à nous-mêmes aussi. On ne peut pas tout changer d'un coup. Quand on manque notre coup, on lui demande pardon, il lui demande son aide encore, et il est prêt à nous la donner. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté de toutes sortes. Et il veut nous amener à terme. Demandons-lui son aide pour qu'on change et qu'on soutienne son œuvre. Demandons-lui qu'il bénisse l'annonce de l'Évangile, parce qu'on doit finir ce travail-là avant que le Christ revienne. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, non pas pour convertir, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors le Christ reviendra. Et comme M. Meredith demandait aussi, moi j'ai commencé à le demander plus dans nos prières, que Dieu nous donne les dons du Saint-Esprit qu'on doit avoir pour finir le travail. Et que Dieu donne à son Église aussi d'avoir les moyens financiers pour aller prêcher l'Évangile de la meilleure façon possible, qu'il y ait de l'abondance financière dans sa maison. Vous savez, en ces temps de plus en plus turbulents et inconfortables, et c'est vrai que c'est inconfortable, on a une promesse divine. C'est pas la seule. Mais on a une promesse divine ici dans Psaume 33, qui est tellement encourageante. Psaume chapitre 33, et je vais terminer là-dessus. Psaume chapitre 33. Commençons au verset 18. Tellement encourageant pour le tout petit troupeau, ceux qui ont à cœur de prendre au sérieux l'appel que Dieu leur a fait, et qui travaillent à changer leur vie pour la rendre conforme à la façon chrétienne de vivre, puis de se préparer pour servir avec le Christ lorsqu'il sera revenu. Regardez le verset 18, psaume 33. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Voyez-vous, ça nous dit ici que Dieu a les yeux tournés constamment sur ceux qui veulent faire sa volonté. Dieu les regarde, Dieu les observe et Dieu est prêt à les aider. Et en fait, Dieu les aide. On pourrait donner plusieurs exemples. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et un des aspects de la bonté de Dieu, c'est que sa bonté nous pousse à la repentance. Et c'est une chose qu'on peut lui demander aussi. Dieu, que ta bonté me pousse encore davantage à la repentance, parce que j'ai encore des choses à changer, puis je veux être capable de changer. Des choses qui sont difficiles, aide-moi. Que ta bonté me pousse à la repentance. Dans Romains, Paul en parle, il dit que c'est Dieu qui nous pousse à la repentance par sa bonté. Hein? Alors, implorons cette bonté-là pour qu'on change. Alors, Dieu, son œil est sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et regardez, pourquoi? Il va loin, verset 19, « afin d'arracher leur âme ou leur vie à la mort. » Parce qu'il y aura des situations difficiles, il y aura des situations plus dangereuses, « afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine qui vient. » La famine ne touchera pas seulement le Venezuela. Elle va toucher nos grands pays bien nantis. Et tout peut basculer très rapidement, très rapidement. C'est comme un mur qui menace de s'écrouler à un moment donné, qui vient bomber. Vous voyez les lézards à l'intérieur du mur, ou à l'extérieur. Et il peut rester là un bon bout de temps, mais à un moment donné, quand le mur commence à s'écrouler, tout se fait soudainement. C'est la même chose en ce qui concerne l'histoire humaine. Et il dit « afin de les arracher, d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Notre âme espère en l'Éternel. C'est lui notre solution, c'est lui notre aide. C'est un papa parfait. Ceux d'entre vous qui, malheureusement, n'avaient pas eu un papa parfait, là, vous en avez un parfait. Et un jour, votre papa imparfait sera ramené à la vie et il aura l'occasion de comprendre. Mais maintenant, vous en avez un père parfait qui peut vous aider chaque jour dans tout ce que vous avez besoin. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Avez-vous remarqué une chose? Moi, ça me frappe et ça m'encourage tellement. Plus je mets dans les mains de Dieu les besoins que j'ai et que je le vois répondre, des fois pas immédiatement, ou des fois pas comme moi j'avais pensé, mais que je réalise en cours de route que sa réponse est venue et que c'est celle-là qui était la meilleure, c'est tellement encourageant parce qu'on voit qu'il s'implique dans nos vies. Il dit, il a les yeux sur ceux qui le craignent, qui s'appliquent à pratiquer sa justice. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, celui qui nous protège. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Il est le Tout-Puissant, Éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et c'est là notre grande espérance. Notre grande espérance. Notre espérance que la solution aux problèmes du monde va venir bientôt. Et notre espérance d'avoir une aide directe, constante, de la part de celui qui nous aime totalement.